Oui, je vous entends. Chantez votre soif et votre désir de Dieu. Je me dis que je suis le pasteur le plus chanceux du monde. Parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être pasteur dans une église dans laquelle des hommes et des femmes ont faim de Dieu. Et si vous voulez voir la gloire de Dieu, on le voit, on la voit. Dieu envoie sa gloire, Dieu se montre quand on le cherche. Et peut-être vous avez du mal à trouver une place assise ce matin, on est en saturation et c'était pareil au premier culte. Je ne sais pas comment ça va être à 14h, mais lorsque deux ou trois sont réunis en son nom et qu'on a vraiment envie de voir Dieu agir, vous allez le voir. Et c'est étonnant parce que quand je pense à cette église, je me dis, il n'y a pas un seul ici qui a la même histoire. Moi, je vous connais un petit peu en entretien, je vous connais, même si vous êtes des visiteurs, ça va peut-être être votre cas ce matin, vous avez des vies bizarres, vous avez des vies compliquées, je ne sais pas si c'est juste à Créteil ou... Mais déjà, cette église, elle est jeune, on va bientôt, on aura 8 ans la semaine prochaine. Alors vous voyez, 8 ans, on rentre au CE2, quoi. Donc c'est une toute petite église et l'église grandit parce que malgré vos histoires de vie qui sont parfois cabossées, vous avez gardé quelque chose à l'intérieur de vous qui dit, quoi qu'il en soit, je m'accrocherai à Dieu. Et c'est le thème, vraiment, c'est ce que j'ai dans mon cœur. C'est pourquoi il y a cette église ici à Créteil. On n'est pas une église parfaite, mais on est simplement une église dont l'idée est de dire, Dieu est celui qui donne des deuxièmes chances. Dieu est celui qui nous accompagne, qui nous relève sans cesse. Et c'est l'histoire de notre vie, c'est l'histoire de notre maman d'ailleurs, de votre maman. Alors vous allez me dire, pasteur, vous êtes un peu plus clair de peau que moi, ça m'étonnerait qu'on ait la même maman. C'est pas vrai. Vous avez la même maman que moi. Si, vous avez peut-être un peu du mal à... Si, on a la même maman, peut-être c'est la grand-grand-grand-grand-grand-maman, mais elle s'appelle Ève. Ta maman, ma maman s'appelle Ève. Et son nom a été choisi parce que Ève, ça veut dire la vie vivre. Et je vous souhaite une chose, c'est de ressembler à votre maman, à notre maman, qui a osé vivre. Ce matin, on va étudier l'histoire de Ève. Elle a plein de défauts, Ève. Elle a vraiment gâché plein de choses dans sa vie. Mais Ève s'est accrochée à la vie. Ève a osé recommencer. Le thème de ce matin, c'est trouver l'énergie pour repartir de l'avant. C'est la caractéristique de cette église. Beaucoup arrivent ici avec les jambes cassées, avec une histoire derrière eux. Et je peux vous dire que, quelle que soit votre histoire, que ce soit vous qui ayez vous-même provoqué votre malheur ou que c'est un accident de vie qui vous est percuté, je vous assure que Dieu est prêt à vous redonner l'énergie d'aller vers l'avant. On ouvre ensemble dans le livre de la Genèse. C'est bizarre parce qu'il ne paye pas de mine ce texte. Et pourtant, pour moi, c'est dans mon top 10 des meilleurs textes de la Bible. Alors je vais vous le partager, c'est vraiment quelque chose que j'ai sur mon cœur. C'est dans le livre de la Genèse au chapitre 4 au verset 25. Peut-être que quelqu'un n'a pas complètement envie le goût de vivre. Vous arrivez en septembre, là, vous dites, il y a une nouvelle année qui recommence. L'année dernière n'était pas terrible, l'année d'avant n'était pas terrible. Qu'est-ce qui me prouve que je vais mieux m'en sortir cette année ? Ève, elle a envie de vivre. Et Dieu veut te donner ce goût de vivre, ce goût de refaire des projets, de refaire des fondations dans ta vie. Adam, verset 25 du chapitre 4 de la Genèse, s'unit encore à sa femme. Elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. Car, dit-elle, Dieu a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils qui s'appela Enoch. C'est à cette époque-là que l'on commença à prier l'Éternel. C'est à cette époque-là qu'on commença à prier l'Éternel. Comme une nouvelle première fois, on va prier ensemble. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. On a besoin, Seigneur, ce livre, c'est un livre de vie. Ce livre est un livre de vie et tu veux donner la vie dans nos cœurs ce matin. La première femme s'est nommée Ève, vie, et on veut être rempli de cette vie. Seigneur, parle à mon cœur, change des choses en moi, touche quelqu'un qui est venu, peut-être par hasard un visiteur, quelqu'un dans ce lieu, mais que tu avais localisé à qui tu veux parler. Seigneur, fais-toi un chemin dans le cœur maintenant. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Ah, je suis émerveillé parce que on a de ces textes dans la Bible et je voudrais juste, en parallèle de l'histoire de Ève, parce que ça résume très très bien son histoire. Ces deux versets de l'apôtre Paul dans le livre des Philippiens, ça va s'afficher sur vos écrans. Philippiens 3, verset 13. Non, frère, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix. Mais je fais une seule chose. Oubliant ce qui est derrière moi et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, c'est cette pensée qui doit nous diriger. Je reviens, oubliant ce qui est en arrière, dans votre cœur là, oubliant ce qui est en arrière, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant. Ce que l'apôtre Paul est en train de te dire, c'est que tu n'as pas assez d'énergie pour aller à la fois en arrière et en avant. Et il y a des personnes ici dans cette salle, un homme, une femme, qui ont tellement une histoire de vie derrière, qui était forte et qui a peut-être des fêlures. On a tous des choses qui ont été cassées dans notre vie, des projets qui ont avorté, des histoires qui ont mal fini, des choses qui nous ont, soit de notre faute, soit des événements. Mais l'apôtre Paul dit, oubliant, tu n'as pas assez d'énergie pour à la fois revivre et porter tes fardeaux passés et avoir assez d'énergie pour aller vers ce qu'il y a devant. Une fois, j'ai eu l'erreur de démarrer ma petite voiture avec le frein à main. J'ai jamais vu ma voiture comme ça. Je dis, mais elle avance pas cette voiture. Ce n'était pas la voiture qui avait un problème, c'est que je lui mettais un frein à main en même temps. Et beaucoup de personnes ont du mal peut-être à redémarrer. Tu vis septembre avec une certaine forme d'angoisse parce que tu dis, mais je ne trouve plus que j'ai l'énergie. Desserre le frein à main. Arrête de vouloir aller à la fois, d'être bloqué et de vouloir aller devant. Il y a un message pour toi que l'apôtre Paul te donne. Il dit deux choses. Oublier le passé et tendre ton énergie vers ce qui est devant. Focaliser sur ce qu'il y a devant. Toute ton énergie pour aller vers devant. Alors, je prends le premier point. Oublier le passé. Ça veut dire quoi, oublier le passé? Il y a des choses, je ne peux pas les oublier. Enfin, c'est mon histoire, c'est ma vie. Enfin, je ne veux pas tout oublier. On revient du côté de Ève. L'histoire de Ève, vous la connaissez bien. On prend au chapitre 3 de la Genèse. Je ne vais pas revenir dessus. Je suppose que vous connaissez déjà votre Bible, que vous connaissez cette histoire qui est l'histoire qui a fondé l'humanité dans la notion de péché. Et on prend simplement le verset 13. L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?»« C'est le serpent qui m'a trompé, » répondit la femme. « J'en ai mangé. » Alors l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages. Tu te traîneras le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi et la femme, entre toi et Ève, entre ta descendance et sa descendance. Mais celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. » Il y a des souffrances que tu payes aujourd'hui pour tes mauvais choix ou des choses que tu n'as pas mis en place il y a quelque temps. Ève, elle paye tellement cher ce choix qu'elle a fait le jour où elle a saisi le fruit, alors que Dieu lui avait dit non. Et il y a peut-être des personnes dans cette salle, lorsque vous venez à l'église, vous avez juste des kilos de culpabilité en disant, honnêtement, j'ai gâché moi-même mon mariage. C'est moi, si jamais j'en suis là dans le domaine du travail, c'est parce que j'ai pas été sérieux la première fois. Et il y a des situations que tu vis parce que tu les as provoquées. Et je pense à Ève. Il y a une conséquence à cela. Et je voudrais aller en profondeur parce que je voudrais dépasser les clichés. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce matin, tu viens à l'église, tu fais l'effort d'aller à l'église parce que c'est le mois de septembre, tu dis je vais essayer quand même. Tu viens à l'église, mais derrière toi, tu as ce rappel dans ta tête de dire ça, j'ai raté. Par rapport à Dieu, il y a des promesses que je n'ai pas tenues lorsque j'avais pris mon baptême. Ève et Adam, lorsqu'ils ont été pris en flagrant délit, ils ont fait une seule chose. Ils se sont cachés de Dieu. Peut-être tu viens ce matin physiquement, mais à l'intérieur tu te caches de Dieu. Parce que tu as des choses qui te rappellent ton passé, c'est-à-dire que tu ne t'ouvres pas à Dieu. Je vais aller plus profond. Vous voyez, il y a des domaines dans lesquels on a des fêlures, des brisures. Moi, Je vais être honnête avec vous, puisque je sais que c'est jamais facile, c'est dangereux de venir un dimanche matin dans cette église, parce que Dieu peut te parler, il peut me parler aussi. Donc ça oblige une certaine transparence. Et je voudrais avoir cette même transparence avec vous. Lorsque je regarde mon caractère, je suis plutôt du genre hyperactif. Et j'essaye d'être calme le dimanche, mais à la base, je suis quand même un peu hyperactif. C'est comme ça que je suis. Dieu m'a aimé comme ça, il m'a fait comme ça. Mais comme tous les hyperactifs, il y a un domaine dans lequel ça m'handicape. C'est lorsque je passe un temps seul à seul avec Dieu, dans ma communion avec Dieu. Vous voyez, je suis quelqu'un pour qui il y a besoin toujours du mouvement. Je m'ennuie vite. Vous voyez, il y a la louange, il y en a certains, vous pouvez écouter 2 CD à la suite. Moi, au bout du premier chant, du moins qu'il ait fait 4 fois le refrain, j'en ai marre. Je me brûle très vite, moi. Très vite, j'ai besoin de dire « et après ?» Parce que je suis toujours en train de... Ça bouillonne trop. Mais du coup, mon handicap, c'est que quand je m'y mettais, j'étais déjà pasteur à l'époque, pasteur stagiaire dans une église à Paris, et je me disais « bon, allez, je fais... » J'étais pasteur stagiaire, en même temps, j'étais étudiant, je passais un concours, etc. Donc j'étais overbooké, c'était un peu de ma faute aussi, mais j'aime ça, c'est mon caractère. Et du coup, avec Dieu, j'avais du temps avec Dieu, mais... Je dois être honnête, il ne restait pas beaucoup. Et j'avais un peu cette culpabilité permanente quand j'arrivais devant Dieu, de dire « Ok, Seigneur, j'ai que 10 minutes. » J'essayais de les prendre, j'arrivais même pas des fois à tenir parce que... Alors j'ai fait cette promesse à Dieu. J'ai dit « Seigneur, je vais vraiment faire l'effort, je vais placer une année dans un endroit où je ne pourrais pas être tenté de faire autre chose que de passer du temps avec toi. » Alors je me suis exilé, je suis allé au bout du monde, je suis aux États-Unis. Je parlais très mal l'anglais, véridique, vraiment très mal. Donc du coup, quand vous connaissez très mal la langue d'un pays qui n'est pas le vôtre, vous êtes vraiment paumé. Alors vous avez du temps pour parler à Dieu. Donc du coup, je me suis coincé là-bas presque exprès pour être sûr de parler avec Dieu. Je dis, là, je vais affronter mon problème. Je vais passer du temps avec Dieu là-bas. Je suis arrivé aux États-Unis et j'ai pris une claque dans la figure, quelque chose qui m'est arrivé, un événement comme ça peut vous arriver. J'ai eu une déception et là, je me suis dit, wow! Impeccable, j'ai du temps pour en parler à Dieu. Et Dieu va m'expliquer. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, j'avais 6 minutes à consacrer au Seigneur. Et là, tout d'un coup, vu que j'avais rien à faire, j'étais venu pour passer du temps avec lui, j'avais 6 heures. Donc, je dis, Seigneur, écoute, là, j'ai vraiment mal, il faut que tu me parles. Voilà, là, pour le coup, on a une vraie occasion tous les deux de communiquer. Alors, je m'installais sur un banc, c'était au Texas, il y avait un petit banc des écureuils. C'était magique, c'était magnifique. Mais à l'intérieur, c'était pas bien du tout. Et je me posais, je disais, Seigneur, juste Dieu, parle-moi. Peut-être certains ont cette envie d'entendre Dieu. Et j'ai presque pas entendu Dieu. Et là, ça m'a mais vraiment fait mal. Parce que je dis, Seigneur, je comprends pas. Je suis venu exprès pour passer du temps avec toi. J'ai une occasion où là, je vis très très mal la situation. J'ai besoin que tu me parles. Je veux pas rentrer dans la dépression. Je suis très très mal. Dieu, parle-moi. Et il me parlait, mais presque pas plus que quand je passais 6 minutes avec lui. Et j'ai pas compris ça. Parce que moi, je me suis dit, si je fais des efforts, Dieu fait des efforts proportionnels. Et ma relation avec Dieu, quand je suis revenu des États-Unis, c'était pire. Parce que du coup, je me suis dit, quand j'ai eu du temps, j'ai pas réussi à avoir la communion avec Dieu que j'avais. Alors que maintenant que j'en ai moins, c'est comme si j'affrontais mon temps de prière comme un combat dans lequel je disais, de toute façon, je vais donner un délai parce qu'il ne se passera rien. Et je veux te parler nettement à toi qui, dans ta vie spirituelle, est en train de près de faire un deuil sur ta communion avec Dieu. À chaque fois que le pasteur il te parle de lire ta Bible, d'avoir un temps de prière, tu dis oui, oui, mais tu sais très bien que c'est court, c'est chronométré et vite tu passes à la suite. Pourquoi ? Parce que tu as un problème là-dedans. C'est comme s'il y a une douleur, quelque chose, parce que Dieu ne t'a pas répondu à un moment. Et du coup, tu n'imagines même plus que Dieu puisse te donner une nouvelle première fois. Regardez Ève. Lorsqu'elle s'est ratée dans le jardin, lorsqu'elle a gâché sa vie, elle doit dire au serpent, « Le serpent, tu m'as volé mon avenir. Tu m'as fait perdre mon paradis. Tu m'as fait perdre mon Éden. » Tu m'as fait perdre la relation avec Dieu que j'avais. Avant, elle parlait avec Dieu tête à tête. Il passait le soir dans un... Il y avait la brise de Dieu qui passait le soir et Adam et Ève venaient en face. Maintenant, Adam et Ève, ils se cachent, ils sont dehors du jardin. Ils ont honte, ils sont gênés. C'est plus comme avant.
Mais elle se dit, il y a une parole que Dieu m'a donnée avant de partir. Il a dit, ta descendance va exploser la tête du serpent. Un jour, je t'aurai. Et alors, elle a fait ce travail sur elle-même et s'est dit, un jour viendra où Dieu, ça va revenir. C'est un jour, je m'en sortirai. Elle a gardé ça quelque part dans son cœur. Et vous savez pas quoi ? Au bout d'un moment, elle voit tout d'un coup quelque chose qui se passe. Au début, elle ne devait pas trop l'apprécier. Elle devait être un peu gênée. Mais elle voit quelque chose qui se forme au niveau du ventre, vous voyez ? Et ça prend 9 mois. Elle s'est dit, mais qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Et tout d'un coup, après 9 mois et un peu de souffrance, et beaucoup de souffrance, enfin, beaucoup de souffrance peut-être à la fin, il n'y avait pas de péridurale, il y a un « ouais !» et elle voit un petit bonhomme, 50 centimètres, et elle se dit « yes !» Le serpent là, le fiston va t'exploser la tête. Et elle nomma le fiston Caïn. Et elle dit « cette fois-ci, c'est ma nouvelle saison !» Je repars avec Dieu, je repars à l'église, serpent, c'est fini dans ma vie. Elle va à l'appel le dimanche matin, elle lève la main, elle dit « ok, c'est reparti ». Et elle repart. Sauf qu'un jour, aux informations sur TF1 qui n'existaient pas encore, elle apprend. Elle apprend quoi ? Elle apprend le pire des drames qu'une maman puisse vivre. Elle apprend que alors qu'elle avait 2 chances, deux petits garçons formidables, Caïn et Abel, eh bien, il y a un enfant mort et l'autre porté disparu. Parce que celui qui est porté disparu a tué le frère et n'a même pas eu le courage de venir lui le dire. Alors elle reprend son fils, elle enterre Abel et elle dit « mais c'est pas vrai, c'était un départ, c'était ma nouvelle chance ». Cette fois, la première fois, c'est moi qui l'ai gâché. Et la deuxième chance de ma vie, c'est mes enfants eux-mêmes qui l'ont gâché. C'était le premier combat dans l'église. C'est incroyable. Le premier meurtre, je ne sais pas si vous réalisez, c'était un meurtre dans une église. C'est, ils se sont tués un dimanche matin au moment de l'offrande. Parce qu'il y en a un qui était jaloux de ce que l'autre apportait au Seigneur et l'un était jaloux de ce que la vie de l'autre semblait plus bénie que la sienne. Alors qu'un jaloux de ce qu'il percevait comme une favoritisme de Dieu pour Abel l'a tué. Et là, maman Ève, qui veut dire vie, eh ben, c'est pas Ève, hein, c'est la mort qu'elle s'appelle. Et pendant des mois et pendant des années peut-être, parce qu'à cette époque-là, ils vivaient longtemps, hein, mes amis, hein, quand vous regardez combien de temps ils vivaient longtemps. Alors, elle ne porte plus la vie, c'est une femme qui porte la mort en elle. Je ne sais pas si vous arrivez d'avoir un espoir. C'est presque pire que si vous n'aviez pas espéré, vous voyez. Je vais vous dire, c'est que les faux départs sont la pire des choses qui existent dans la vie. Parce que si on ne redémarre pas, on dit, de toute façon, j'ai peut-être l'espoir que si je fais l'effort de redémarrer, ça va marcher. Peut-être aujourd'hui, vous êtes sentimentalement au point mort, mais vous dites, bon, j'ai quand même l'espoir que lorsque je trouverai le bon, ça va y aller. Mais le pire, c'est après les faux départs. C'est après avoir attendu longtemps, vous trouvez quelqu'un qui finalement vous retrouvez seul. Alors là, vous avez en plus de la souffrance, la désillusion complète et l'espoir qui meurt. Et du coup, la vie en vous s'éteint. Moi, lorsque je suis revenu des USA et que j'ai eu mon premier temps de prière avec Dieu, mais il y avait un froid glacial entre moi et Dieu. Parce que je disais, Seigneur, franchement, j'ai fait l'effort aux USA. Autant avant, c'était mon problème, c'est moi qui ne donnais pas le temps. Mais là, ce n'était plus mon problème. Et Ève, elle dit, la première fois, l'histoire de l'arbre, c'était moi. Mais l'autre histoire, Dieu, pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez déjà dit à Dieu, pourquoi ? Je ne suis pas le seul dans cette salle qui un jour ait dit « Dieu, je ne comprends pas. » Enfin, tu avais une promesse dans ma vie. Ce dimanche matin, quand il y a eu la prophétie qui disait « ta descendance écrasera le serpent. » Mais j'ai mal entendu. Le jour où tu m'avais promis un avenir, une espérance, Seigneur, je viens d'enterrer l'espérance la semaine dernière. Combien de temps il faut ? Alors moi, c'est difficile pour moi parce que j'ai qu'une prédication d'un dimanche matin pour vous toucher. Et je ne peux pas vous toucher parce qu'il vous faut du temps de Dieu. Et moi, je suis juste comme quelqu'un qui passe dans votre vie en cette matinée. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un temps de Dieu et il y a une guérison de Dieu pour Ève. Et ça, beaucoup d'entre vous vont la rejeter. Vous savez pourquoi ? Parce que quand tu as vraiment mal et que tu as fait le deuil de quelque chose, tu n'acceptes pas qu'on te touche. La deuxième partie, c'est focaliser vers l'avant. mettre toute ton énergie vers l'avant. Et alors, imaginez le nombre d'années où Adam et Ève, ensemble, passaient devant l'endroit où était enterré Abel, pensaient à Caïn qui n'était plus là, se disent, c'est quoi les projets de Dieu ? Et honnêtement, il y a des femmes dans la salle, elles ne vont pas me contredire. Il y a peut-être soit qui écoutent ce message par Internet ou... Les femmes, soyez réelles. Quand vous souffrez, ça change votre caractère. Moi, j'ai eu aussi... Ça nous arrive tous. Hein. Vous savez, on a beau servir Dieu, il nous arrive aussi des accidents de la vie. Et je n'ai pas perdu un enfant qui était né, mais j'ai perdu des enfants avant de naître. Et je sais ce que c'est que d'avoir les faux départs où vous achetez les petits chaussons et que ça ne se fait pas. Et là, il y a un temps où juste être capable de prendre la main de votre conjoint, c'est dur. Où vous êtes obligé d'aller au-delà de votre réflexe naturel qui est de vous enfermer. Et là, je suis vrai avec vous ce matin. Il y a un moment où oubliez le passé, il dit ça, mais... Et c'est là où l'apôtre Paul dit « Mettez toute votre énergie vers l'avant ». Je ne sais pas combien de temps il a fallu à Ève, mais j'ai lu, et c'est pour ça que je vous dis que c'est un texte magnifique que vous n'aviez pas remarqué, combien il était magnifique. On reprend le verset 25 du chapitre 4. « Adam s'unit encore à sa femme et elle mit au monde un fils qu'elle nomma Seth. » Oh, c'est beau ça! Pourquoi c'est beau? Parce qu'il a fallu. Ah, je pense bien qu'Adam... Écoutez ça. Quand Ève se regarde dans une flaque d'eau, je ne suis pas sûr qu'il y ait des miroirs à l'époque, j'essaie d'adapter. Quand Ève se regarde dans une flaque d'eau, elle voit une maman qui a perdu deux enfants. Elle voit une maman qui a gâché le paradis. Elle voit une maman qui ne sait plus pourquoi elle vit. Elle voit une maman qui a à peu près 130 ans, si je ne me trompe pas. Donc elle en a vu des choses. Mais je vois également ce qu'elle ne voit pas dans la mare et que Adam voit en Ève. Vous savez ce que Adam voit en Ève ? Il voit une belle femme. Je peux vous dire une chose, c'est que quand Adam voit Ève, il voit une jolie femme. Elle n'a pas changé. C'était un canon le premier jour, c'est encore un canon aujourd'hui. Et Adam, il a encore envie de Ève. Mais je pense que le soir, lorsque Adam vient voir Ève et dit, « Chérie, tu me donnes... » Non, pas ce soir. Je ne suis pas bien. Et le lendemain, lorsqu'il vient, un moment romantique, il dit, « Non, je pense à Abel, je ne peux pas. » Comment Dieu peut te prendre la main, dis-moi. Comment Adam a pris la main de Ève un jour? Comment ils ont pu aller jusqu'à espérer encore dans l'avenir? Mais je voudrais que tu laisses Dieu. Ah, il va falloir que tu casses des sécurités dans ta vie. Il y a un moment de vulnérabilité. Quand Ève accepte de prendre la main de Adam, lorsqu'elle accepte de serrer Adam contre elle, il y a un moment où elle est vulnérable, où elle dit, voilà, j'ai déjà fait deux histoires tristes. Je ne vois pas pourquoi la troisième va marcher. Et Adam dit à Ève, écoute, ça appartient à Dieu. Je crois qu'il va falloir que tu laisses des choses. Là, c'est pour ça que je disais oublier le passé. Et Adam et Ève, au lieu de mettre toute leur énergie à regarder derrière, ils se disent, il y a peut-être quelque chose. Et regardez ce que dit Ève. Vous êtes avec moi ? Dieu m'a suscité une autre descendance pour remplacer Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils qu'il appela Enoch. Mais ça ne s'arrête pas là. Il est dit, c'est à cette époque que l'on a commencé à prier l'Éternel. Est-ce que tu es prêt à réouvrir la porte de l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu es prêt à prendre le risque d'une nouvelle relation avec Dieu? Je veux dire, d'une nouvelle communion avec Dieu. D'aller vers un temps de prière avec Dieu dans lequel tu n'anticipes pas qu'il ne va rien se passer. Est-ce que tu es prêt à prendre ta Bible et redire, est-ce que c'est possible que Dieu me reparle comme le premier jour? Est-ce que tu es capable d'aller à l'église en disant, mon culte, je vais être bouleversé, je vais être capable de lever ma main encore, même si j'en ai fait 10 fois ça, même si j'ai vu l'histoire de Caïn, j'ai eu le problème, mais je veux aller au-delà de cela. et je crois que Dieu est vie. Parce que mon nom, c'est Ève, vous voyez, je m'appelle Ava, j'étais formé pour donner la vie. Mon histoire, c'est une histoire de vie. Et je ne laisserai pas Satan me voler et faire de moi une femme morte. Et il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Et lorsque Ève va vers Adam, il y a un moment où elle dit « Ok, je passe au-delà, j'arrête de tout contrôler, j'oublie mon passé, il y a jusque pour un instant. » Il suffit que tu ouvres à Dieu un instant pour qu'il puisse redonner la vie à l'intérieur de toi. Et lorsque Ève va avoir ce ventre qui grossit pour la troisième fois, elle a le temps de choisir un prénom, vous voyez ? Parce que maintenant, elle sait ce qui vient derrière. Elle se dit « Il y a un bonhomme qui arrive. » Et le bonhomme, vous savez comment elle va l'appeler ? Elle va l'appeler Seth. Ça veut dire fondation, placée par Dieu. Et elle se dit, en fait, de toujours ça, vous voyez, fondation, c'est costaud. Hein, elle se dit, Dieu avait un plan programmé derrière. Parce qu'il a remplacé. Ça, c'est la preuve que tu es guéri. Ève, ce jour-là, elle dit, je crois que Dieu avait déjà placé à l'intérieur. Vous savez que les progrès de la biologie sont formidables parce que dès le lycée, on vous apprend des choses. Vous, les femmes, vous savez que tout est déjà dans le ventre. Hein. Il n'y a pas d'impro. Hein. Tous les bébés potentiels, ils sont déjà à l'intérieur. Hein. Du moins de votre partie à vous. C'est-à-dire que quand il y a le numéro 7 qui est arrivé, Dieu avait déjà prévu le numéro 7. Et quand 7 est arrivé, c'était une fondation de Dieu. C'était un nouveau départ de Dieu. Il y avait quelque chose là-dedans qui était prévu et que Dieu avait placé dans son ventre parce qu'elle s'appelait la vie. Alors je vais conclure ce matin. L'apôtre Paul, il dit, oubliant ce qui est en arrière. Vous savez qu'est-ce qui... Attendez. On ne peut pas oublier n'importe quoi. On dit trop des fois, on utilise des versets, on les sort du contexte. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce que l'apôtre Paul disait lorsqu'il disait « oubliant ce qui est en arrière ». L'apôtre Paul, si vous lisez juste avant, il disait « Moi, je suis juif. Je suis né de parents juifs. Je suis né à Tarse. J'ai fait l'école rabbinique de Gamaliel. Moi, mes amis, j'avais de quoi me glorifier de ma culture et de ma naissance, etc. » Et je l'ai utilisé dans les premières années de ma vie pour séparer des hommes et des femmes, pour arracher des parents à leurs enfants. Je suis allé jusqu'à Damas, je suis allé avec des lettres de mission pour les traduire devant les tribunaux religieux. Et il doit penser à cette femme un jour qu'il a dû séparer de ses enfants. Et l'apôtre Paul, il se dit, si jamais je regarde mon passé en face, j'avance plus. Comment tu veux évangéliser lorsque tu dis, mais... Je pense que vous savez, quand vous avez fait vraiment, je parle à ceux qui ont vraiment fait des erreurs dans leur vie, vous avez des flashbacks de vos erreurs. Cette personne avec qui tu n'aurais jamais dû avoir cette relation, ces choses que tu as complètement gâchées, et tu dis, mais c'est pas vrai. Et tu as ce flashback qui revient. Et l'apôtre Paul, il avait des flashbacks des familles qu'il avait brisées pour les amener devant les tribunaux religieux. Et il devait entendre encore les cantiques qui crient de cette personne qui chantait alors qu'elle savait qu'elle allait être condamnée pour avoir eu la foi en Jésus. Et l'apôtre Paul, il dit, mais il y a un moment où je vais devoir oublier ce qui est en arrière. Il dit, je considère ma vie vraiment comme des ordures. C'est un grand gâchis. C'est un grand gâchis. Ma vie avant, c'est un grand gâchis. Mais, oubliant ce qui est en arrière. Vous savez, il y a des choses, tu ne pourras même pas demander pardon. Peut-être, si tu as encore la possibilité de demander pardon pour ton passé, avant de l'oublier, profites-en. Demande pardon à Dieu et va demander pardon aux personnes que tu as blessées. Mais là, l'apôtre Paul, il n'a même plus l'occasion de les voir, certains. Et lorsqu'il dit ça, oubliant ce qui est en arrière et me projetant vers ce qui est devant, je cours pour obtenir le prix. C'est quoi le prix ? C'est l'appel de Dieu attaché à notre union avec Jésus-Christ. Alors écoute, Ève, toi qui as la vie à l'intérieur, depuis le début, avant que Dieu... permettre que ce faux départ de Cain détruise Abel. Dieu savait, Dieu avait placé en toi un numéro 7. Que toi qui es là ce matin, tu ne sais pas qui est le numéro 7. Tu ne sais pas quel est le numéro de Dieu. Les choses que tu as prévues pour toi. Mais l'apôtre Paul dit, dans le stade de la vie, je cours. et je cours et j'oublie le passé. Vous vous rappelez Laure Manaudou, vous avez regardé les JO cet été? Ça m'a touché. Laure Manaudou. Laure Manaudou, combien de départs elle a fait? Elle a connu tout dans le passé, Laure Manaudou. La meilleure nageuse de tous les temps. Et elle a eu du courage. Moi, c'était presque celle que j'admirais le plus dans ces JO. Parce que vous voyez, faire le premier JO, c'est beaucoup plus facile que faire vos quatrièmes JO, vos troisièmes JO. Quand vous avez tout connu. Et vous êtes raté comme elle s'est ratée. Elle doit penser à Federica Pellegrini, à Luca et tout ça. Elle doit faire tout le film dans sa tête. Son premier fiancé, tout ce qui est parti dans sa vie. Et puis lorsqu'elle est au départ et qu'elle finit même pas dans les qualifications. Vous savez, les journalistes, ils sont formidables. Ils vous disent, on est vraiment désolé pour vous. Et vous voyez qu'il y a zéro humanité là-dedans. Mais je me rappelle cette image extraordinaire. C'est que je vois lorsque son petit frangin, il vient d'une médaille d'or contre toute prédiction. Je vois Laure qui descend des granats. Ça se fait pas, c'est pas dans le protocole, mais elle est tellement, mais c'est son numéro 7, vous voyez, ça s'explique pas, ces trucs-là. Elle descend et elle serre son frangin dans les mains et puis c'est génial ce qui se passe à ce moment-là. Et elle dit une phrase, écoute bien cette phrase. Elle dit, j'ai eu plus de joie pour cette médaille d'or que pour toutes mes médailles d'or. Vous comprenez ce qu'il y a quelque chose de presque divin, il y a quelque chose de vie, il y a Ava, il y a Dieu là-dedans, il y a le souffle de vie presque dans ces choses-là. Parce que elle est complètement rayonnante ce jour-là, plus que le jour où la médaille d'or. Est-ce que tu crois que Dieu est capable, alors que ce petit frangin qu'on espérait même pas, il est... Et Ève, lorsque elle donne naissance à cette, elle doit être super stressée. Elle est super stressée. Mais elle dit, Dieu, je prends une fondation. Est-ce que tu es prêt à prendre une fondation pour toi pour le mois de septembre? Mettre en place, de dire, ok, je redémarre mon culte avec Dieu. Si c'est la seule décision que tu dois prendre ce matin, prends-la. Demain matin, 8h, je ne sais pas, moi, tu choisis l'heure que tu veux, ou 22h, si tu es du soir, je prendrai mon temps avec ma Bible. Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu es prêt à mettre une nouvelle fondation dans ta vie? Oui, je n'aurai pas peur de prier avec Dieu, même s'il ne me parle pas immédiatement. Vous voyez, construire un enfant, ça ne se fait pas en un clin d'œil. Et ce n'est pas le tout d'accoucher. Après, il faut l'élever. Et elle va élever Seth. Elle va construire la vie de Seth. Et elle va l'élever certainement en disant, voilà ce que je ne veux pas qu'il se passe. Mais voilà ce que je crois aussi pour Seth. Et lorsque Seth va grandir, il va lui-même donner un fils qui va s'appeler Enoch. Et c'est à ce moment-là que dans la famille de Ava, de Ève, on va recommencer à prier l'Éternel. Et on va se dire finalement, le ciel est encore ouvert. Amen. On va fermer les yeux ensemble. L'apôtre Paul, alors que les yeux sont fermés, était dans le stade et il a certainement été dans le stade. Il dit, je cours pour remporter un prix, ressembler à Christ, être dans l'union avec Christ. Quel doit être ton projet pour l'année qui vient? Toi qui es là dans ce lieu, c'est que ton année à partir de septembre, ton année scolaire, tu sois chrétienne, tu t'accroches à Dieu, tu bâtisses avec Dieu. Tu sois fidèle dans ton temps de prière, tu sois fidèle dans ta lecture de la Bible, que tu t'accroches à l'église dans laquelle Dieu t'a placé. Alléluia. Que tu sois une témoin de Jésus dans ton travail, que dans ta famille tu donnes la vie dans les discussions, que tu sois une femme qui apporte la paix dans les conflits, que tu sois un homme dont on dise « Waouh, il assure papa !» parce qu'il a une relation avec Dieu, parce qu'il sait pourquoi il vit. Dans le stade, l'apôtre Paul dit, il y a un appel. Et il fait référence à ce qui se passait à Rome. Il y avait un speaker sans micro, juste à la voix, qui disait, le vainqueur est, il citait le nom de la personne, il citait la famille de la personne, il citait la tribu de la personne, il citait le pays. Et c'était juste la gloire pour celui qui était appelé, parce qu'on disait, waouh ! Et moi je veux que lorsque j'arrive au ciel, dans les arènes du ciel, lorsqu'on dise le nom Yvan, on dise « il est chrétien, son pays c'est chrétien, sa famille c'est chrétien, son identité c'est chrétien, que tu arrives au ciel et que l'on dise à propos de cette année 2012, de septembre 2012, qu'on dise « elle est restée chrétienne, elle a été fidèle à Dieu, elle a bâti Seth. » Alléluia. On reste en prière. Moi, je vais me taire, je vais laisser l'équipe de louanges conduire un chant dans la douceur. Si tu veux prier à ta place, tu pries. Si tu veux parler à Dieu, tu parles à Dieu.
Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, ce qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, ce qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, de déposer à tes pieds. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, ce qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai.
Moi, je suis persuadé, il y a parmi nous des hommes, des femmes, vous avez beaucoup de choses sur les épaules. Et Dieu, il n'a pas de place pour rentrer. Et à peine il tend la main, vous retirez votre main. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'être désillusionné, peur de repartir pour un échec. Et juste, vous acceptez pas que Dieu soit là. Moi, je vais vous demander si vous avez besoin de restaurer votre communion avec Dieu. De faire juste un signe à Dieu, de vous lever à votre place. Parce que votre communion, il y a quelque chose, mais il y a une gêne entre toi et Dieu. S'il y a une gêne entre toi et Dieu, tu te lèves à ta place. Moi, je préfère me lever que de faire comme si tout allait bien et de ne pas changer. Dieu dit, est-ce que tu veux? Je te tends la main ce matin, est-ce que tu veux te lever? J'ai des temps avec toi que tu n'as pas connus. J'ai des émotions spirituelles que tu n'as pas encore connues. Tu crois avoir tout vu, ma fille, mais tu connais rien de Dieu encore. Tu connais rien de Dieu. Tu crois avoir vécu des cultes où Dieu t'a touché. T'as rien vu encore. J'ai prévu mieux pour toi. Tu crois avoir entendu tous les CD de louanges qui pouvaient te toucher. Je peux te dire que les CD de louanges qui vont toucher ta vie ne sont pas encore écrits. Reprendre ensemble, montre-moi la voie, dis-moi où aller. Et laisse, ouvre à Jésus, ouvre la porte pour que quand il prend la main, tu la retires pas comme Ève.